Bon, ben la discussion, la jasette était bien partie pendant la pause avec M. Pierre Paulus, qui est député de Charlebourg, Haute-Saint-Charles, leader parlementaire pour le Québec, pour le Parti conservateur du Canada. Il est avec nous en studio. M. Paulus, bon mercredi matin.
Bon matin, monsieur.
Merci d'être là en studio avec nous ce matin, M. Paulus. Comment va l'ambiance chez le Parti conservateur du Canada suite à cette défaite très serrée, il faut le dire, aux dernières élections?
Ben ça va, on s'est rencontré la semaine passée en caucus à Ottawa, mais avec mes collègues. Il ne faut pas oublier qu'on a 45 nouveaux collègues. On a une augmentation de 25 au total, mais il y en a qui ont démissionné, il y en a qui ont été battus, mais on a 45 nouveaux collègues. Donc, ces gens-là qui étaient très heureux d'être élu, de faire partie du Parti conservateur. Donc, évidemment, quand notre objectif était de gagner le gouvernement, on l'a échappé, mais il reste qu'on a des choses à revoir de notre côté, analyser les raisons de tout ça. Mais l'augmentation quand même du vote est magistrale au Canada pour les conservateurs, 42%, on n'a jamais vu ça depuis 40 ans. Même au Québec, on était à 24% du vote au Québec, on a fait des augmentations partout, même dans la région de Montréal, on a doublé les scores. Donc, il y a du positif à retirer quand même de ce qu'on a fait.
Oui. Je sais que c'est déjà prématuré, mais est-ce qu'il y a déjà des éléments que vous avez ciblés comme étant des choses à améliorer en vue d'une prochaine campagne électorale qui va être avant 4 ans là, avec un gouvernement minoritaire?
Il y a beaucoup de choses, mais ce que j'ai remarqué, ça fait 10 ans que je suis à Ottawa, puis c'est que le Canada, il faut vraiment, dépendamment d'où on a une perspective différente. Je regarde mes collègues, j'ai des collègues dans le sud de l'Ontario qui ont été élus, qui ont battu des NPD. Donc, les travailleurs de l'Ontario adorent Pierre Poilievre, ont vraiment transféré leur vote du NPD vers chez nous, dans cette région-là. Alors qu'ici, les gens qui votent NPD ont été vers les libéraux. Le Canada, c'est très différent. Donc, il y a des gens qui vont dire « on aime moins Pierre Poilievre pour telle raison », puis ailleurs, c'est le contraire, c'est une star. Donc, c'est pour ça qu'il faut essayer de voir comment on peut s'ajuster pour aller chercher le maximum sans non plus se dénaturer.
D'ailleurs, j'allais vous demander, est-ce que ça a été un défi au sein du parti de gérer la défaite de votre chef et les décisions qu'on devait prendre pour aller de l'avant avec le parti?
Le défi, je pense, c'est plus M. Poilievre qui l'a géré lui-même parce que c'est lui qui a malheureusement perdu son comté, qui a dû l'absorber, cette défaite-là. Pour nous, de notre côté, bien évidemment que... On était très déçus, puis en peine pour lui. Mais ce qu'on fait, c'est qu'on se tient. On est 143 députés maintenant. On a une augmentation. Puis notre chef, on le supporte là-dedans. On a supporté notre chef. Il y a un de mes collègues, Damien Correct, qui démissionne en Alberta pour laisser sa place pour une élection partielle que M. Poilievre se fasse réélire. Donc, on a vu aussi un député qui était à 5 mois d'avoir sa pension, qui a dit « je démissionne ». Dans l'intérêt du pays, dans l'intérêt de mon parti, je laisse ma place à M. Poilievre, donc il faut le faire.
Mais justement, là, ça semble très coulé dans le béton que Pierre Poilievre va rester chef, puis aux prochaines élections, c'est lui qui va avoir le mandat de vous mener au pouvoir. Mais dans les heures qui ont suivi, y a-tu eu à l'interne quand même des questionnements? Puis quand la poussière est retombée, on a regardé ça froidement, puis on a dit « OK, on a d'excellents résultats, c'est sûr que c'est lui qui va rester là. »
Ben c'est ça, il faut faire la part des choses entre le chef et peut-être l'équipe aussi, l'organisation, les décisions qui ont été prises par le parti pour les différentes stratégies. On a parlé souvent qu'on voyait M. Poilievre, il était toujours seul. Il n'y avait personne de l'équipe autour de lui. C'est des décisions qui ont été prises. Pourquoi ce genre de décisions-là ont été prises? Ou la façon de travailler de l'équipe. Donc ça, c'est beaucoup de régie interne.
Candidat vedette aussi qu'on a parlé. Est-ce que c'est quelque chose vers lequel vous voulez vous lancer?
Ben, les candidats vedettes, c'est sûr que l'approche de M. Poilievre au niveau des candidats vedettes a toujours été plus de dire on va avoir des gens qui sont impliqués dans leur communauté, qui sont forts chez eux. Donc, d'avoir quelqu'un qui est vu comme une vedette n'est pas nécessairement une perception qui est la même pour Pierre Poilievre. Il faut voir. Mm-hmm. Mais il reste que d'avoir des candidats de qualité qui ont des backgrounds, qui ont une expérience professionnelle qui peut apporter quelque chose dans un cabinet ministériel, c'est très important.
Dans le fond, j'aime ça parler avec M. Paulus parce qu'on vient de trouver enfin une similitude entre Pierre Poilievre et Bruno Marchand. Les deux font des campagnes terrain. Ouais. C'est rare, ça, là. On a réussi un exploit. Passons au vif du sujet. Cabinet Carney hier, 28 ministres, mais 10 secrétaires d'État. Je vous pose la question, c'est un petit ou un gros cabinet?
Ben, finalement, c'est un gros cabinet. Il reste que quand même, on parle d'un cabinet similaire à ce que M. Trudeau faisait. M. Carney a fait une différence en nommant des secrétaires d'État qui sont des ministres, mais plus ou moins, font pas partie des réunions de cabinet, mais il reste que pour nous, actuellement, c'est que la moitié sont les mêmes ministres qui étaient là avant. Mm-hmm. On parle à Mme Joly, M. Champagne, M. Guilbeault. On voyait une image hier, une photo, là, lors de la nomination du cabinet, puis c'était une image du temps de Justin Trudeau, là. Donc, c'est pour ça qu'on va voir, nous, en partant, ce qu'il faut qu'on comprenne, c'est qu'on est prêt à supporter le gouvernement Carney. Ça, les gens l'entendent peut-être pas souvent, là, mais le Parti conservateur, M. Poilievre, était clair hier. Dans l'intérêt des citoyens, dans l'intérêt des Canadiens, compte tenu des menaces encore existantes de tarifs de Donald Trump, de tout ce qui se passe à l'étranger, le Parti conservateur, on est prêt comme opposition.
Pour la prochaine année,
je dirais les prochains mois. Là on a 4 semaines à faire avant l'été. On va, si les décisions de M. Carney vont dans ce qu'il nous annonce actuellement, on va supporter le gouvernement Trudeau, Carney. Mais voyez-vous, hein, on se trompe encore. Parce
il y a
que
les mêmes ministres,
c'est les
donc
mêmes
on
personnes.
Se trompe.
Oui, c'est ça. Mais en même temps, si jamais, justement, le gouvernement Carney va dans la même direction que Justin Trudeau, ben c'est sûr qu'ils vont nous trouver sur leur chemin.
Ben d'ailleurs, M. Poilievre a annoncé hier ou a dit hier, vous pouvez continuer à voler nos idées conservatrices. Est-ce que on le voit de façon positive que de l'autre bord on vole nos idées?
Ben là, on n'a pas le choix. Regardez, on a vu la fameuse taxe carbone. Hein. On a été démonisés pendant des années par les libéraux en se faisant traiter de tous les noms possibles. Première décision de Mark Carney, c'est d'abolir la taxe carbone et de voir ensuite des anciennes ministres comme Mona Fortier à Ottawa faire des vidéos sur Twitter en disant ah, regardez les gens ici à Ottawa, vous sauvez 20 sous du litre maintenant grâce à nous. Quelle hypocrisie, quel virage à 180 degrés. Ces idées-là, par contre, ça venait de chez nous. L'idée d'aller chercher les ressources naturelles, d'exploiter nos ressources naturelles, M. Carney veut aller de l'avant. C'est évidemment que ça nous fait plaisir, c'est ce qu'on veut faire, c'est ce qu'on propose dans l'intérêt de l'autonomie du Canada. On a également la taxe, le TPS sur le logement neuf. On l'avait proposé. M. Carney est arrivé en campagne avec la même idée. Donc, M. Poilievre a dit hier, regardez, on a plein d'idées comme ça pour aider les Canadiens. Prenez-les, ça va nous faire plaisir de vous les donner. À un moment donné, c'est sûr que notre objectif, c'est d'aider les citoyens.
Oui, c'est ça. Mais l'objectif aussi ultime va être de les faire, à un moment donné, de les réaliser.
C'est là qu'on va voir.
Oui, c'est ça. Stephen Guilbeault, je vais vous en parler parce que c'est le leader au Québec pour le Parti libéral du Canada. Tantôt, justement, Ordonne vous disait faut qu'il fasse des pirouettes puis des changements de cap en raison, justement, de la taxe carbone, les pipelines, tout ça. Est-ce que c'est vraiment une figure pour nous représenter, nous, au Québec? Moi, en tout cas, il ne me représente pas personnellement.
Bien, M. Guilbeault, à la base, c'est un activiste environnementaliste. Là, on le connaît, on le sait. Puis il a toujours été, toujours pris des positions très drastiques au niveau de l'environnement. Puis là, lorsqu'on a vu M. Trudeau annuler la taxe carbone pour les maritimes, parce qu'il y avait un enjeu là-bas, M. Guilbeault a dit, si on va plus loin avec ça, je démissionne. Mm-hmm. Puis la première décision du nouveau premier ministre, c'est d'annuler complètement la taxe carbone. Et là, M. Guilbeault est encore là, et même lieutenant pour le Québec. Comment M. Guilbeault va réagir au fait que M. Carney est prêt à avoir des nouveaux pipelines pour le gaz, pour le pétrole? Alors qu'il s'oppose à ça radicalement, il est lieutenant du Québec. Comment il va faire pour gérer cette situation? Parce que son rôle comme lieutenant pour le gouvernement, c'est de faire affaire avec le gouvernement du Québec aussi. Il devra convaincre le gouvernement du Québec du positif d'avoir des ressources naturelles qui sont exploitées.
Alors qu'on sait que le gouvernement du Québec, présentement, n'est pas ouvert à cette idée-là.
Donc, c'est ça. Également, au niveau, M. Guilbeault a été nommé ministre des langues officielles. Puis en même temps, ben, M. Carney a clairement annoncé qu'il va s'attaquer à la loi 96, la loi du Québec pour le français. Donc, comment M. Guilbeault va dealer avec ça? Je sais pas.
M. Paulus, plus près de chez nous, ici à Québec, vous pensez quoi de l'ajout de Joël Lightbaum dans le conseil des ministres de Mark Carney?
Ben écoutez, Joël, c'est un gars qui est là depuis... Il était là en même temps que moi en 2015. Mm-hmm. Là, il a attendu son tour longtemps. Là, honnêtement, je lui souhaite que ça fonctionne, mais il y a un gros défi en avant de lui. C'est justement de voir, il y a le portefeuille de la transformation gouvernementale, mais également de l'approvisionnement des services publics. C'est un dossier que j'ai traité aussi quand j'étais sur le comité des opérations gouvernementales. Et il y a énormément de choses à changer avec l'approvisionnement fédéral. Ça, c'est le premier défi de Joël Lightbaum. Pour la région de Québec, on verra. Je sais que vous l'aviez en entrevue avant moi. Là, j'ai pas entendu tout ce qu'il a dit, mais il reste que un dossier important, c'est le port de Québec. Est-ce que M. Lightbaum est d'accord avec les projets du port de Québec pour la productivité, pour aider à la région de Québec au niveau économique? Ça, je ne l'ai pas entendu là-dessus.
Projet QSL, entre autres?
Le QSL, effectivement. Puis il y a des... également, ben là, le tramway revient. Le tramway, notre position n'a pas changé. Nous, la majorité des gens de Québec n'en veulent pas pour différentes raisons. Et il faudrait aussi que M. Lightbaum nous explique pourquoi son gouvernement, à l'époque, lorsque M. Lightbaum est arrivé avec le projet de tramway, les fonctionnaires fédéraux ont évalué ce projet-là. Puis le budget qui était demandé à l'époque, lorsque ça coûtait 3,3 milliards, les fonctionnaires fédéraux ont dit non, on ne peut pas donner 40 % parce qu'il n'y a pas assez d'achalandage. Puis ça, c'était avant la COVID. Donc, aujourd'hui, on est rendu, on a triplé presque le montant de ce projet-là. Comment on peut justifier ça alors que c'était même pas, ça passait même pas le test là, il y a 7-8 ans?
Je veux vous parler de l'autre projet majeur dans la région de Québec, Chaudière-Appalaches, c'est le troisième lien. Et quand on a des politiciens qui ne se sont pas encore positionnés sur le troisième lien, ils nous disent toujours « Bien, j'attends qu'il y ait un projet concret. » Dans votre tête, à vous, c'est quoi un projet concret? Puis c'est quoi que la ministre Geneviève Guilbeault doit faire rapidement pour convaincre les gens que c'est un projet concret?
Bien, c'est sûr que ça relève du gouvernement du Québec à la base. Donc, il y a différents scénarios possibles actuellement. Un projet concret, c'est d'arriver et dire voici à quel emplacement on mettrait un troisième lien, de quelle façon ce lien-là va être un pont, le coût, évidemment, associé à tout ça. Ça, c'est un projet qui est plus concret. Mm-hmm. Mais il reste qu'à la base, pour avancer, pour aller plus loin, il faut avoir des partenaires. Puis là, il y a les seuls partenaires au niveau fédéral, c'est le Parti conservateur. C'est les conservateurs, on est clair, on est prêt à supporter le projet de troisième lien. Alors que les libéraux se servent toujours de l'idée de dire on n'a pas de projet, mais tu peux quand même te prononcer. M. Lightburn pourrait dire s'il y a un projet, on va l'appuyer. Mais ils ne veulent pas avoir un projet de troisième lien, ils ne veulent pas un projet autoroutier. Ça s'inscrit encore aussi dans la volonté des libéraux depuis plusieurs années de ne pas supporter les projets d'autoroute, de route. Donc là-dessus, il y a juste les conservateurs, encore une fois, qui supportent le projet. Mais évidemment, il faut avoir une idée concrète de ce que ça sera. Mais à la base, il faut au moins supporter l'idée.
Ouais. Les travaux parlementaires ont été mis sur la glace ou sur pause, on dirait, on a l'impression, depuis un méchant bout maintenant. Là, qu'est-ce qui vous attend dans les prochaines semaines et quelles sont vos grandes priorités?
Ben là, le 27, le discours du trône à Ottawa. Donc, on va voir les priorités du gouvernement. Est-ce que les priorités du gouvernement vont correspondre à nos attentes dans l'intérêt des citoyens, des Canadiens? On va, à partir de là, il va y avoir 4 semaines. Donc, ça va être très rapide. On a un budget qui devrait être déposé par le gouvernement. On devrait avoir à adopter un budget. De notre côté, on est, comme j'ai dit, on est prêt à supporter le gouvernement, mais s'il y a des éléments qui ne font aucun sens, et déjà là, on a eu des indications en campagne avec la plateforme libérale, la plateforme économique, qui démontrait des déficits astronomiques pour les prochaines années. Donc, il faudra voir si M. Carney va rajuster le tir. Est-ce qu'il va commencer à parler de coupures puis trouver des façons de balancer les chiffres? Sinon, ben, on ne pourra pas supporter une augmentation encore du déficit.
En terminant, est-ce qu'on fait un cabinet fantôme du côté du...
Oui, ça c'est sûr qu'on a besoin d'une équipe. Là, le cabinet fantôme, dans le fond, c'est que chaque ministre a un député conservateur qui agit à titre de, on appelle ça le shadow cabinet en anglais, là, cabinet fantôme. Donc ça, M. Poilievre devra nommer son équipe. Là. Je pense qu'il attendait de voir le cabinet ministériel pour choisir les meilleures personnes pour faire face à chacun des ministres.
Est-ce que vous attendez à demeurer comme lieutenant du Québec?
Pour l'instant, je suis là. Je suis encore lieutenant pour le Québec. Puis on va voir dans les prochaines semaines.
Vous le souhaitez?
Absolument. Okay. De mon côté aussi, on a des choses qu'on a apprises lors des dernières années, lors de la campagne en particulier.
Comme quoi? Ça m'intéresse?
Bien, c'est au niveau de l'organisation. Il y a des choses à améliorer, à changer, puis on va tout mettre ça de l'avant, et vous le saurez plus tard.
Vous allez repasser nous voir.
Oui, c'est ça. Ça me fera plaisir. On est accueillants, vous connaissez à la porte. Viendrez une jaser de ça plus tard. Plaisir.
Yes. Pierre Paulus du Parti conservateur du Canada, merci infiniment de vous être déplacé et venir nous voir en studio ce matin.
Merci à vous autres.
Salut. À très bientôt. Noé Talbot, une nouveauté, Mourir pour le rock à Boulevard.